par Jésus lui-même au chapitre 1 de l'Apocalypse, mais dont nous n'avons pas beaucoup parlé lors des messages sur ce chapitre. Donc j'aimerais qu'on lise ensemble Apocalypse 1, verset 7. C'est pas sur le diapo, donc vous pouvez trouver si vous voulez. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Toutes les familles de la terre vont voir Jésus. Jésus est celui qui vient. À Noël, nous parlons beaucoup du fait que Jésus est venu et qu'il est avec nous. Il est Emmanuel. Mais Jésus est aussi celui qui revient. Il ne faut pas l'oublier. Et donc aujourd'hui et dimanche prochain, nous allons parler du retour du Christ. Et en général, je vais diviser notre regard sur ce retour en deux parties. Le quand et le pourquoi. Pour faire quoi? Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de quand Jésus va revenir. Et quelques autres questions qui vont avec celle-ci. Et dimanche prochain, nous verrons le pourquoi. Jésus revient pour faire quoi? C'est une question qui va entraîner, elle aussi, certaines autres questions, parfois compliquées. Mais aujourd'hui, avant même de parler de quand, j'aimerais être clair par rapport à ce que nous entendons par le retour du Christ. Parce qu'il peut y avoir de la confusion là-dessus. Selon la Bible, Jésus va revenir physiquement, corporellement sur terre. En Actes 1, 11, au moment où Jésus est monté au ciel, son ascension au trône, où il siège à la droite du Père, vous vous souvenez de ce que l'ange dit aux disciples? On l'a vu il y a un an, donc ça remonte un peu. Actes 1, 11, homme de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. De la même manière. C'est-à-dire, Jésus va revenir dans son corps ressuscité. Et ce corps est même bel et bien un corps physique. Les disciples avaient touché Jésus après sa résurrection. Et Jésus avait mangé avec ses amis après sa résurrection. Le retour du Christ n'est donc pas un événement purement spirituel, comme disent certaines sectes. Il ne revient pas pour vivre parmi nous d'une façon invisible. Parce qu'en effet, ça, nous l'avons déjà. Il est déjà parmi nous spirituellement. Parce que son esprit est déjà en nous. Le retour que nous attendons n'est donc pas sa présence spirituelle. Nous attendons sa présence corporelle. Voilà pourquoi tout œil le verra comme nous l'avons vu en Apocalypse. Tout le monde le verra parce qu'il sera visible, même à ceux qui ne croient pas en lui. Quand notre Seigneur revient, il sera visiblement, corporellement parmi nous. Soyons clairs là-dessus. Voilà donc de quoi nous parlons aujourd'hui et la semaine prochaine. De la même manière que Jésus était sur terre il y a 2000 ans, il sera sur terre encore. Sauf que cette fois-ci, il ne viendra pas comme un bébé, mais comme le roi triomphant, le roi de la terre. Et plus sur ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons parler de quand. Et pour lancer nos réflexions, nous allons lire Luc chapitre 12, versets 35 à 39. Ici, Jésus parle à ses disciples par une sorte de parabole. En fait, c'est deux paraboles. Pour expliquer le temps d'attente avant son retour. Et c'est ça va s'afficher sur l'écran, c'est un peu petit. Et si vous avez votre Bible, n'hésitez pas à chercher. Luc, chapitre 12, verset 35. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent leur maître reviennent des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs. S'il les trouve éveillés, vous le savez bien, si le maître de la moisson connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, Jésus compare les disciples et nous, qui sommes maintenant ses disciples, à des servants qui attendent le retour de leur maître. Et puis, il les compare aussi à un homme qui ne sait pas à quelle heure le voleur va arriver. Et dans les deux cas, ce qui est clair est que la personne ou les personnes qui attendent ne savent pas à quel moment celui qui vient va arriver. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien savoir des choses. Vous aimez bien avoir la réponse lorsque quelqu'un vous pose une question. Et vous le trouvez gênant de ne pas connaître la réponse et d'être obligé de dire « Ben, je ne sais pas. » Moi, par exemple, je veux toujours être capable de répondre aux questions que mes filles me posent. De dire, par exemple, lorsqu'elles me demandent « Papa, pourquoi le ciel est bleu ?» De dire « Ben, en effet, ma petite, le ciel est bleu grâce aux différents gaz dans l'atmosphère qui agissent comme un filtre pour la lumière et la composition de l'air fait en sorte que... » Et ainsi de suite. Et même si mes filles ne m'écoutent pas, j'aime quand même avoir la réponse. C'est un peu bête. Mais je pense que nous sommes tous un peu comme ça. Parce que avoir la bonne réponse, ça signifie en quelque sorte que nous maîtrisons notre monde. Et en plus, nous l'aimons lorsque les autres nous regardent et disent « Ah ouais, il est vraiment intelligent celui-là. » Et il y a quelques semaines, bien après que nous avions choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui, une des petites filles de notre assemblée est venue me voir pendant un culte. Je me tenais au fond de la salle et je me suis penché vers elle quand elle s'est approchée de moi et elle m'a chuchoté dans l'oreille « Pasteur, pasteur, quand est-ce que Jésus va revenir ?» C'était super mignon. Et j'étais vraiment content d'avoir ce genre d'échange. Mais vous pouvez imaginer aussi les différentes pensées qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là. Que devrais-je dire ? La Bible ne me dit pas quand Jésus va revenir. Mais puis-je vraiment dire à cette petite fille, je ne sais pas, quand elle vient vers moi avec tellement de confiance, toute souriante comme ça, je voulais avoir une réponse. Qu'est-ce qu'elle va penser de son pasteur qui dit, je ne sais pas. Toutes ces pensées dans une demi-seconde, et puis mon obligation de dire la vérité a pris le dessus, et je lui ai chuchoté, on ne sait pas. Mais la Bible nous dit d'être prêts. Pendant un petit instant, elle avait l'air un peu déçue. Et puis, elle m'a fait un sourire, m'a dit merci, et elle a rejoint ses parents. Et par la suite, je me suis souvenu de ce que Jésus dit à ses disciples par rapport à son retour en Matthieu 24. C'est verset 37. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Personne ne les connaît. Si les gens, les anges et Jésus lui-même ne savaient pas, alors je ne devrais pas avoir honte de dire que moi non plus. Et vous non plus. Il faut résister à la tentation de prétendre aux autres et à nous-mêmes que nous savons plus que ce que la Bible nous dit. Nous lisons à plusieurs reprises que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Non pas parce qu'il va venir piquer nos affaires et puis disparaître, mais parce qu'on ne sait jamais quand un voleur va arriver. Évidemment, ça pourrait être au milieu de la nuit ou vers la fin, comme la parabole dit. On ne sait pas. Alors, cela dit, c'est vrai que j'aurais pu citer la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. C'est l'avant-dernier verset de la Bible où Jésus dit « Oui, je viens bientôt. » Et l'apôtre Jean répond « Amen, viens Seigneur Jésus. » Maranatha, comme on dit. J'aurais pu dire à cette petite fille, je ne sais pas exactement, mais la Bible nous dit « bientôt ». Jésus vient bientôt. Et cela aurait été juste, parce que c'est ce qu'il dit en Apocalypse 22. Et dans les évangiles d'ailleurs. Mais je n'ai pas dit « bientôt » à cette petite fille, parce que je sais aussi comment un enfant comprend le mot « bientôt ». Dans cette situation-là, si j'avais dit « Jésus revient bientôt », sans avoir le temps pour expliquer ce que ça signifie, cette fille aurait pensé sans doute que ça voulait dire cet après-midi, ou ce soir ou plus tard. Ce qui était tout à fait possible, mais pas garanti non plus, évidemment, parce que nous sommes là aujourd'hui. Si vous avez passé du temps avec un enfant, avec un petit enfant, vous savez bien que bientôt, pour eux, veut dire aujourd'hui ou demain au plus tard. Et nous sommes tous comme ça, plus ou moins. Pour un jeune, bientôt, qu'est-ce que ça veut dire pour vous les jeunes? Si on dit, ah ben, on va faire ça bientôt, la semaine prochaine, le mois prochain ou plus tard. Mais à 40 ans, l'année prochaine commence à sembler assez bientôt. Et ainsi de suite, parce que bientôt est relatif à notre expérience. Et la question devient... Alors, si le mot « bientôt » peut signifier beaucoup de choses assez différentes pour nous tous, de 5 minutes jusqu'à 5 ans, que signifie « bientôt » pour Dieu? Heureusement, il y a un verset qui en parle. Ce verset en Apocalypse a été écrit il y a 2000 ans, et on attend toujours. Alors, Jésus a-t-il menti? S'est-il trompé en disant « je viens bientôt » Et nous sommes là, 2000 ans après. Certains, par le passé, l'ont suggéré que Jésus s'est trompé. Il faut savoir. Mais peut-être, c'est nous qui devons changer notre idée de ce que ça veut dire « bientôt ». Parce que voici ce qui est écrit en 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 3. Sachez, avant tout, que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de raillerie. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour. Et puis verset 8, mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est un rappel très très important pour nous, les êtres humains, par rapport à plein de choses, non pas juste la question du timing, que ce soit pour le retour du Christ ou d'autres. Pour beaucoup de choses dans notre vie, la perspective de Dieu n'est pas la nôtre. Lui, il voit au début jusqu'à la fin, et nous ne voyons qu'une petite partie. Une petite partie que nous prenons facilement pour l'ensemble. comme une fourmi sur une barre de fer en bas de la tour Eiffel, qui prend sa petite barre pour la tour elle-même, sans jamais se rendre compte qu'en fait, la tour s'étend des centaines de mètres au-dessus. Notre perspective est extrêmement limitée. N'imaginons pas que celle de Dieu est aussi limitée. Le temps n'est pas un problème pour Dieu. C'est lui qui l'a créé. Pour celui qui voit toute l'éternité passée et future, 2000 ans, c'est comme 2 jours. Alors, la question que je me pose en se rendant compte de ce fait, c'est est-ce que ça veut dire que ça va être encore une autre fois 2000 ans avant son retour? Je ne pense pas. J'espère pas. Mais je ne sais pas. Et je n'ai pas honte de le dire parce que Jésus l'a dit. On ne sait pas. Ça pourrait être ce matin ou cet après-midi. Ça pourrait être dans 2000 ans. Mais dans tous les cas, ce que Jésus nous demande, c'est d'être prêt. De rester éveillé pour notre Maître, qu'il vienne au milieu de la nuit ou à la fin. On revient à ce que ça veut dire pour nous à la fin, mais d'abord, j'aimerais noter que si nous ne connaissons pas la date où Jésus va revenir, ça ne veut pas dire que nous ne savons rien sur la question de quand ça va arriver. À cet égard, nous pouvons dire au moins 2 choses. D'abord, Jésus ne reviendra pas avant que le monde soit suffisamment évangélisé. Si nous lisons la suite du passage en 2 Pierre 3, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est pour donner au plus de monde possible l'occasion de le connaître. Et encore, soyons clairs, c'est Dieu qui décide quand ce moment sera venu. Et donc ça pourrait être cet après-midi. Mais si ce n'est pas, c'est parce qu'il y a toujours des gens dans le monde, toujours des gens ici à Russie, qui doivent entendre l'Évangile. Dimanche dernier, notre invité, Serge, il nous a dit que si nous ne sommes pas morts, c'est parce que Dieu a quelque chose que nous devons faire ici sur terre. C'est la seule raison que tu n'es pas mort. C'était très interpellant. Si tu n'es pas mort, c'est parce que Dieu a quelque chose pour toi à faire, quelque chose à faire. Et c'est pareil pour le retour du Christ. Si Jésus n'est pas encore revenu, si nous sommes toujours là, c'est parce que nous avons encore quelque chose à faire avant son retour. Dans un sens, donc, nous pouvons dire que Jésus reviendra dès que tout ce qui doit être fait sera fait. S'il attend pour une raison. Et c'est ça la raison. Parce qu'il a patience envers nous et envers les autres. Et nous avons une tâche à faire. Deuxièmement, nous pouvons dire que le retour du Christ aura lieu après certains grands troubles sur la terre. Bien sûr, en regardant autour de nous, ça peut sembler évident. Mais c'est important de le dire parce qu'il y en a, et même certains chrétiens, qui ont accepté le mythe du progrès enseigné en Europe depuis le siècle des Lumières. Le mythe que l'être humain est capable de régler lui-même les problèmes de la terre. Alors que nous lisons en Matthieu 24 qu'au moment où Jésus revient, et bien avant ce moment-là, la terre sera en grande difficulté. Je vais lire Matthieu 24, 4 à 14. Jésus leur répondit : Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront : C'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution, et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Voilà une description des choses qui doivent arriver avant la fin. Et ça peut être effrayant si on lit attentivement. Mais Jésus nous dit de ne pas nous laisser effrayer. Pourquoi ? Parce que ces choses doivent arriver. C'est-à-dire, elles ne sont pas un signe que Dieu a perdu le contrôle. Au contraire, Dieu sait bien que le mal va s'augmenter dans le monde. Mais vous avez noté, en parallèle, son royaume va grandir aussi. En parallèle avec la mal, le royaume de Dieu va grandir aussi. Il va être proclamé au monde. Jusqu'à ce qu'il soit proclamé dans le monde entier. Et souvent, c'est même de ce mal que Dieu va servir pour que cette bonne nouvelle soit proclamée. Vous avez jamais constaté ça? Que la lumière est plus évidente quand elle est entourée de ténèbres. N'oublions pas que c'était la persécution des chrétiens au 1er siècle qui les a dispersés partout dans le monde, où ils sont devenus des témoins de l'Évangile. C'est la persécution qui a fait les premiers missionnaires. Les missionnaires inattendus pour Jésus. Et puis, c'était pendant les pestes du 2e siècle, si vous étudiez l'histoire, c'était pendant les pestes que certains Romains ont reconnu que les chrétiens prenaient soin de leurs voisins, même quand ils risquaient eux aussi d'attraper la maladie, parce que l'amour de Dieu les motivait. C'était pendant les pestes que la lumière a brillé, la lumière des chrétiens. Et ainsi de suite, pendant toute l'histoire, les troubles dans ce monde sont toujours pour nous une occasion d'être une lumière. Le mal va croître. Les ténèbres deviennent de plus en plus profondes. Mais c'est justement à ce moment-là que notre témoignage peut vraiment briller. À chaque fois que nous voyons les ténèbres autour de nous, notre première pensée devrait être « Et comment ma lumière va briller au sein de ces ténèbres ?» Les troubles vont arriver. Les difficultés vont arriver. C'est à nous à briller au sein de ces troubles. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse sur ces troubles dont on lit. Parce que selon certains théologiens et certains prédicateurs, les chrétiens seront épargnés de la période la plus troublée, la plus catastrophique, qui viendra juste avant le retour de Jésus. La période qu'on appelle parfois la grande tribulation. Je ne sais pas si vous en avez jamais entendu parler. Mais l'idée, c'est qu'il y aura avant cette période et le retour définitif de Jésus, un enlèvement des chrétiens. Et que ce n'est qu'après cet enlèvement que les grandes guerres d'Armageddon et tout ça vont avoir lieu pendant ce temps. Et cette idée de l'enlèvement des chrétiens avant la grande tribulation et le retour du Christ a été surtout popularisée par la série romains américains intitulée Left Behind. Ou en français, les survivants de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez jamais vu ces livres, mais ils se trouvent un peu partout dans les librairies chrétiennes. Et il raconte la vie sur terre après l'enlèvement des chrétiens. Ça fait une bonne histoire. C'est très intéressant de lire, d'imaginer un monde où tous les chrétiens disparaissent au même moment. Bibliquement, le passage qui est le plus souvent cité comme description de cet enlèvement se trouve en 1 Thessaloniens 4, 17. Je vais lire. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. D'où vient le terme enlèvement? Et selon cette perspective, ce verset décrit non pas le retour définitif de Jésus, mais son arrivée pour certains chrétiens, pour chercher les croyants, avant de repartir avec eux pendant la grande tribulation. Selon d'autres théologiens et prédicateurs évangéliques, par contre, ce passage est tout simplement la description du retour du Christ, tout simple, à la fin de la période des tribulations. Et ce passage, il ne s'agit pas en fait d'un autre événement distinct à son retour définitif. Alors, ça peut être compliqué et on ne va pas entrer dans les détails. Mais qu'est-ce que nous devrions comprendre par rapport à cette question de l'enlèvement avant le retour du Christ? Et là encore, je vais être obligé de dire, je ne sais pas. Non pas parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons pas savoir, comme pour la date du retour du Christ, mais pour trois autres raisons qui sont liées les uns aux autres. D'abord, il me semble que la Bible n'est pas extrêmement claire là-dessus. D'où la diversité de perspectives parmi les évangéliques. Et si la Bible n'est pas extrêmement claire là-dessus, ça m'amène à croire, deuxièmement, que ce n'est pas une question essentielle, ni à notre foi, ni à notre pratique. Et alors, puisque ce n'est pas un point essentiel à ces choses, quand un chrétien ou une église se focalise trop sur ce genre de détails, ça devient souvent une distraction et une source de division inutile. Quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux dans certaines églises. Parce que, comme je l'ai dit, les évangéliques ne sont pas tous d'accord sur cette question. Et je peux vous dire que même dans cette église, il y a plusieurs avis sur cette question-là. Mais nous, les responsables, nous sommes bien d'accord que Jésus nous appelle à une unité qui surmonte les différences qui peuvent exister sur ce genre de questions. Ce genre de questions compliquées et inessentielles. Et donc, si j'en parle aujourd'hui, c'est simplement parce que c'est un débat que vous allez peut-être rencontrer en lisant des livres chrétiens ou écoutant des prédicateurs. Et c'est utile au moins de savoir que ce débat existe. Et si c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez échanger plus, Jean-Serge et moi sommes à votre disposition, mais nous tenons quand même à souligner que c'est un détail. C'est un détail et non pas un point essentiel à la doctrine. Alors, je vais fermer cette parenthèse un peu compliquée en disant tout simplement que quoi qu'on pense sur la question d'un enlèvement avant la grande tribulation, la Bible est claire sur deux choses. D'un côté, on va expérimenter des difficultés, parfois très sévères sur cette terre, que ce soit avant ou pendant la grande tribulation. Deuxièmement, les troubles qu'on pourrait expérimenter ne sont pas un signe que Jésus nous a abandonnés. Au contraire, Jésus sera notre secours dans nos difficultés. Et au moment propice, il en mettra fin exactement de la manière qui est décrite en 1 Thessaloniens 4. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Un jour ou autre, nous allons entendre la son le son de la trompette et nous allons rejoindre notre Seigneur. Fin de parenthèse sur l'enlèvement. Et revenons donc brièvement au texte que nous venons de lire sur les troubles que la terre va expérimenter avant la fin. Nous devons faire attention quand nous lisons ces textes, car la tentation sera toujours de nous dire « Eh ben voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors c'est la fin du monde. » Évidemment, c'est la fin du monde. À chaque fois qu'on voit à la télévision quelque chose qui ne va pas, on peut se dire « Voilà, c'est la fin du monde. » Un tremblement de terre, une guerre, un faux prophète, l'élection d'un certain président, ou pas. Et donc, Jésus revient cette année, sans doute, c'est évident, c'est la fin. Mais, en fait, cette façon de penser va directement contre ce que Jésus nous dit en Matthieu 24, verset 6. « Cependant, ce ne sera pas encore la fin. La fin n'arrivera qu'après ces choses. » Et encore, nous ne savons pas combien de temps après, combien de temps ce genre de choses va durer avant la fin. C'est pour ça qu'il nous appelle toujours à persévérer. Comme Jésus va dire dans le prochain chapitre, Matthieu 25, verset 13, « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et il y a une deuxième raison à résister à la tentation de s'imaginer que ce qui se passe dans le monde maintenant indique forcément la date de son retour. Parce qu'en fait, penser comme ça, c'est d'oublier qu'il y a eu des désastres, des guerres, des catastrophes naturelles, et ainsi de suite, tout au long de l'histoire de l'Église. Il y a eu des faux prophètes tout au long de l'histoire de l'Église. Et à chaque époque depuis la résurrection de Jésus, il y a toujours eu quelqu'un qui disait « Ben voilà, c'est la fin. » Mais ces personnes ont toujours eu tort, évidemment, parce que nous sommes là. Vous savez, au 4e siècle, à la chute de l'Empire romain, au 6e siècle, pendant les guerres de religion en Europe, au 20e siècle, avec les guerres mondiales, à chaque fois, il y avait quelqu'un, beaucoup de monde même, qui était convaincu que maintenant, c'était la fin. Et sans doute, il y en a qui pensent maintenant. En Syrie, peut-être. Ce serait tout à fait naturel dans un sens. On peut bien imaginer pourquoi un chrétien en Syrie s'imaginerait que c'est la fin du monde. Parce que son monde est en train de s'écrouler. Mais comme nous l'avons déjà vu, notre perspective est très, très limitée. En même temps que l'Empire romain tombait en ruine, l'Évangile arrivait en Europe. À l'époque des guerres en Europe, l'Évangile atteignait l'Amérique. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, lorsque l'Occident se déchirait, l'Évangile s'explosait en Afrique et en Asie. Nous ne savons pas ce qui se passe vraiment dans le monde, même si l'Internet nous donne cette illusion. Nous voyons le mal, mais le bien, surtout le bien spirituel, il ne s'affiche pas sur la télévision. Nous ne connaissons pas exactement les projets de Dieu pour ce monde, ni combien il reste à faire. Nous ne savons pas l'heure du retour, mais nous savons une chose, il faut rester vigilant. Et je termine avec ce rappel. Le commandement de Jésus nous dit de rester éveillé et vigilant sans se focaliser sur la question de quand. Pourquoi? Parce que la tâche est grande. Et si nous passons notre temps convaincus que le temps est très très court, nous n'allons jamais entreprendre de grandes choses pour Dieu. Que ce soit au niveau de notre vie personnelle, notre cheminement avec le Seigneur, ou que ce soit au niveau de notre mission en tant que ses témoins, nous allons être tentés de baisser les bras en imaginant que nous n'avons plus rien à faire, sauf attendre. Les exemples extrêmes de cela sont des sectes qui proclament une date pour le retour du Christ, et puis ils se renferment dans leur enceinte pour attendre. Mais faisons attention parce que ça peut nous arriver aussi à une autre échelle. Si nous devenons convaincus que la fin est tellement proche que ça ne vaut pas la peine de se plonger dans la tâche. Rester vigilant, ça veut dire persévérer dans notre mission. Notre mission d'être transformé en son image et d'être ses témoins. Et en même temps, ça veut dire être conscient à chaque instant que Jésus pourrait revenir maintenant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce que Jésus va trouver? Des serviteurs qui sont à fond pour lui ou des serviteurs qui se sont endormis parce qu'ils étaient sûrs qu'ils ne revenaient pas aujourd'hui? Comme celui dans la prochaine parabole qui se trouve en Luc 12. Celui qui pensait que puisque le maître tardait, qu'il pouvait laisser tomber son travail, battre les autres servants et vivre une vie de débauche. Si c'est votre cas, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre à s'approcher de Dieu. Il ne faut pas attendre à se plonger dans la tâche. Parce que demain, ça pourrait être trop tard. Ça pourrait être trop tard. Si vous imaginez que vous allez attendre pour mener une vie de disciple avec Jésus, demain pourrait être trop tard. Il ne faut pas attendre. Nous ne savons pas exactement quand Jésus va revenir. Mais nous savons que la tâche est grande. Et nous voulons qu'il nous trouve prêts. Soyons une église qui est prête pour le retour de notre Sauveur, pour le retour de notre Seigneur. Que ce soit demain ou dans 2000 ans, peu importe. Jésus est celui qui était, qui est et qui revient. Soyons prêts, soyons éveillés. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes faibles. Nous sommes parfois très fatigués. Nous sommes tentés à nous endormir. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Mais nous voyons ce que tu nous promesses, ce que tu nous promets, tes promesses, que tu vas revenir, que tu vas revenir pour nous au moment propice. Et nous te demandons tout simplement de nous aider, de nous guider pour que nous soyons prêts pour ton retour et qu'entre-temps, que nous puissions être transformés en ton image et pour que nous puissions être des lumières qui brillent dans les ténèbres. Que ce soit ta lumière qui brille à travers nous à chaque instant. C'est en ton nom que nous prions. Amen.
Nous allons terminer par...